Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Cette semaine, nous fouillons ensemble la poubelle de l'esthétique, les rebuts du bon goût, j'ai nommé le moche. Imprimés léopards et pulls de Noël font l'objet d'un essai de la journaliste Alice Pfeiffer, Le goût du moche, aux éditions Flammarion.
Qu'est-ce que le moche ?
Le moche, alors c'est pas exactement le contraire du beau. Le beau, il y a une qualité presque biblique, de transcendantal, de sublime. Et donc le contraire du beau, ce serait plutôt le laid, qui lui est terrible, qui est diabolique. Le moche, c'est son, le vilain petit canard, c'est son petit frère dont on se moque gentiment.
Alors le moche, c'est souvent un argument d'autorité qu'on n'hésite pas nous-mêmes à mobiliser dans ce podcast. Anne, est-ce que tu peux déjà nous présenter l'autrice ?
Alors bien sûr, Alice Pfeiffer, on la connaît surtout parce qu'elle est journaliste mode aux Inrock et que dans cet espace d'expression, elle interroge souvent la question des appropriations culturelles et sociales dans la mode, ce qui est vraiment une approche rafraîchissante et très intéressante. Elle est aussi rédactrice en chef de la revue Antidote, qui est une revue consacrée à la mode. Elle a déjà écrit sur le mythe de la Parisienne, donc la fameuse Parisienne qui est toujours super fraîche, super maigre, la Parisienne telle qu'elle est vue par les Américains et par les Anglais.
Ça, c'est tout nous.
Donc, c'est-à-dire la meuf qui n'existe pas, c'est un peu l'Arlésienne, la Parisienne, dans son premier livre. Et là, donc, c'est son deuxième et on a adoré. Alors, du coup, donc, elle a travaillé sur le moche en esthétique. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment elle l'a défini ?
Oui, donc la journaliste part d'abord dans le livre de son expérience personnelle, puisqu'elle se concentre sur le moche dans la mode, qui est donc sa spécialité, et elle raconte sa jeunesse lorsqu'elle tentait des expériences qu'on pourrait qualifier de transclasse, puisqu'elle a eu des parents bobos pratiquant une forme d'éducation non genrée pour l'époque. Donc elle a rapidement transgressé à l'adolescence en revêtant des habits de la marque Pinky, rose flashy, avec écriture sur le boule et tutti quanti. Et ce faisant, elle raconte donc que les codes du beau ou de ce qui est vu comme correct versus le moche, le vulgaire ou le kitsch ne peuvent pas s'apprécier de manière universelle. Par exemple, le fameux nombre d'or qui est utilisé en peinture et qui a été théorisé par Léonard de Vinci et ensuite capitalisé sur le tard par les chirurgiens et les chirurgiennes esthétiques n'existe pas pour les objets. Elle s'en réfère, comme il se doit, à la sociologie de Pierre Bourdieu et explique que le goût est une construction sociale et c'est là que ça nous intéresse. Donc il faut toujours se demander d'où on parle, qui peut se permettre de juger, puisque tout est dans le regard. La fripe, par exemple, peut être jugée moche par les fans de la marque Desigual, qui eux-mêmes peuvent aimer le moche selon les amateurs et les amatrices de fripe. Voilà.
Oui, et ce qui est cool, c'est que déjà, le livre, par ailleurs, petit interstice, le livre est beau dans sa mocheté.
C'est un bel objet, ouais.
Et chaque chapitre s'attache à une définition du moche selon le prisme d'Alice Pfeiffer. Elle parle, par exemple, du moche comme le kitsch. Et ça, c'est un chapitre qui est très intéressant. Elle explique que le kitsch, c'est ce qui pourrait être beau si c'était unique et validé par l'histoire avec un grand H, mais qui s'avère être archi-moche. Elle prend l'exemple de l'acropole d'Athènes, donc quand même quelque chose qui est jugé beau universellement, mais elle dit que l'acropole d'Athènes, si elle est belle à Athènes, si elle est en contreplaqué couleur marbre vendue chez Casto, ce n'est pas beau, c'est kitsch, c'est archi-moche. Donc, le kitsch, c'est l'industrialisation de codes beaux et sa mise à disposition dans toutes les franges de la société. De même, elle s'intéresse aussi au ringard, le ringard qui peut être ringard pour certains, vintage chez d'autres, et ce qui est quand même archi intéressant. Elle utilise la citation d'Oscar Wilde, « La mode est une forme de laideur si intolérable que nous devons la changer tous les 6 mois », ce qui est cool, on aimerait bien en faire un t-shirt. Et elle dit surtout que la mode, c'est une façon de mettre certains codes dans un moment T, au pinacle des codes esthétiques. Elle utilise les codes des bobos en 2013, où elle disait que à l'époque, les garçons, c'était bonnet, buns et barbe, c'était le beau de l'époque et aujourd'hui ça peut être considéré autrement.
Ouais, ça a toujours cours hein, d'ailleurs, donc n'oubliez pas de changer de look. Et parmi les catégories auxquelles se réfère le terme de moche, il y a aussi ce qu'on peut appeler le dégueulasse, le crado. On peut penser par exemple à la robe toute en viande portée sur scène par Lady Gaga.
I'm getting called that she needs to be in her seat. They give her kind of a 2 minute heads up. The door opens up. I see she's wearing a red dress. A matching red hairpiece, matching purse, matching shoes. I start to notice people staring a little bit harder than they normally would.
I was literally like this close to her. Just remember looking at it and just wondering, is that really?
And then I start looking at her dress and notice that it's not really a normal type of fabric. And I'm trying to pay attention to see what the white swirls are. And then it clicks that the ice chest was what was keeping the dress fresh.
What is it?
Is that real meat?
Is there a steak on her head?
Ou à la comédienne Angelina Jolie arborant un t-shirt orné de son propre sang lors de son premier mariage. Il y a aussi la faute de goût. D'ailleurs, ça nous rappelle le film Le Diable s'habille en Prada et la fameuse diatribe de Miranda Priestley.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
J'ai dit quelque chose de drôle.
Non, c'est rien, vous voyez, c'est juste que... Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre ces ceintures, je débute. Je ne connais pas grand-chose à ces trucs-là.
Ces trucs-là? Ah, je vois. D'accord, vous pensez que tout ceci n'a rien à voir avec vous. Vous regardez dans votre placard et vous choisissez, disons, cette espèce de pull-over difforme, par exemple, parce que vous voulez montrer au monde que vous vous prenez trop au sérieux pour vous soucier réellement des vêtements que vous mettez. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas juste bleu. Il n'est ni turquoise, ni azur. C'est un bleu que l'on appelle céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a présenté une collection de robes céruléennes. Et c'est Yves Saint Laurent, il me semble, qui a créé des vestes militaires bleu céruléen. Il nous faut une veste avec ça. Et puis le céruléen est vite apparu dans les collections de 8 couturiers différents. Il s'est ensuite infiltré peu à peu dans les lignes de prêt-à-porter dans les grands magasins. Et puis j'imagine qu'il a fini par se retrouver dans une petite boutique de vêtements misérable où vous l'avez sans doute sorti d'un bac de liquidation. Quoi qu'il en soit, ce bleu représente des millions de dollars ainsi qu'un nombre énorme d'emplois. Et j'avoue que je trouve comique que vous soyez sûr d'avoir fait un choix qui vous exempte du fabuleux monde de la mode alors qu'en fait, vous portez un pull justement choisi pour vous par les personnes dans cette pièce. Parmi une pile de trucs divers.
Et quand elle parle du dégueulasse et du crado, elle met aussi en exergue le fait qu'on utilise les codes scato. Ça, c'est un peu inattendu. Enfin, moi, perso, je ne m'attendais pas à voir autant de démonstrations que le scato est utilisé dans la mode.
Et oui, le emoji caca fait des émules. Alors, pourquoi ce livre est intéressant à part ça?
Il est intéressant parce qu'on est à une époque où on questionne la domination dans toutes les strates de nos vies, de notre assiette à notre façon de voter ou de consommer. Et donc là, c'est chouette de voir comment la domination entre dans la vision que l'on peut avoir du beau. On voit que la lutte des classes se niche dans le goût dominant. On voit aussi que la définition du beau est différente, évidemment, on le savait, mais là, on le voit bien démontré, que la définition du beau est différente selon qu'on soit bourgeois ou pauvre, selon qu'on soit de Paris ou en province. Et on voit aussi que certaines catégories de la population ont le droit et le privilège de s'affranchir des codes du beau et du vilain. Comme elle le dit d'ailleurs très bien, je cite, « Étant journaliste de mode et donc identifié aux yeux du regard critique, à savoir modeux, je peux porter des robes jogging ultra moulantes à des dîners mondains ou des créoles XXL avec les mots baby d'un côté et love d'un autre. » Donc elle dit qu'elle bénéficie d'un droit au deuxième degré du vulgaire conscient, comme ce qu'elle en parle, alors que d'autres personnes ne passeraient évidemment pas à la porte d'un dîner mondain habillé comme ça.
Oui, effectivement, la question du moche, et à l'inverse, donc celle du beau et des critères du jugement esthétique, mobilise, tu viens de le dire, les questions de genre, de classe et de race. D'ailleurs, on voit bien comment s'exprime le mépris de classe pour la figure qu'on appelle la cagole. D'ailleurs, on peut se référer au documentaire de Sébastien Hadouk à ce sujet, mais aussi à l'épisode qu'on a fait sur la télé-réalité où l'on parle de Loana Petrucciani. On voit aussi comment certains codes sont aujourd'hui réappropriés par le plus grand nombre, comme les ongles très longs, le jogging et les baskets, voilà, des signes distinctifs de classe plutôt populaire. Et donc, elle interroge aussi la question assez passionnante de cette réappropriation ou de ce qu'on appelle le retournement de stigmates. Ça, c'est le linguiste américain Erwin Goffman qui est à l'origine de ce concept, avec par exemple les rappeuses ou Kim Kardashian, donc des personnes qui sont traitées de parvenues, de nouvelles riches, qui ont un style considéré comme clinquant ou ostentatoire, et chez qui les adjectifs de slut, de cheap, de trash ou de vulgaire deviennent à l'inverse des marques de fierté et donc de réappropriation.
La défense et illustration du moche de Alice Pfeiffer m'a beaucoup fait penser à ce droit de réponse qui a circulé sur les internets pour défendre les zones pavillonnaires. C'était après qu'un architecte de l'élite, Christophe Legac, ait débiné les lotissements et autres actes dans le numéro 441 de l'architecture d'aujourd'hui. Il avait intitulé son article « La France moche ». Et donc l'architecte plutôt populo, Maxence Debloch, a écrit un super texte en disant « La France moche, c'est chez moi ». Il disait « J'ai fêté pas mal d'anniversaires à Buffalo Grill, j'ai été habillée à la halle aux chaussures, j'ai été élevée au rayon bande dessinée d'Auchan et au DVD de Vidéo Future. Aussi, je me sens un peu insultée par cet énième article faussement bienveillant, mais vraiment méprisant sur ces lieux, écrit par quelqu'un qui ne les connaît qu'à travers les fenêtres de son TGV ou de Google Maps. » Oui, parce que le moche, ce n'est pas simplement dans les objets ou dans la mode, c'est aussi dans l'architecture, par exemple.
Oui, c'est bien vu. Et Alice Pfeiffer va même plus loin avec ce qu'elle appelle, en le traduisant en français, le joli laid, c'est-à-dire une manière d'esthétiser le moche comme un Parisien du 11e arrondissement qui va tourner un clip à Cergy en mode « comme c'est joli tout ce béton que d'aucuns diraient moche, mais moi non ». Donc c'est tout aussi naze. Et elle dit « le charme que l'on trouve à quelque chose nommé défaut dévoile que l'on n'a pas souffert de ce dernier ». Encore une question de concerner ou pas.
En conclusion, on pourrait juste dire que Alice Pfeiffer annonce un peu la couleur dès le début. Le goût du moche, c'est d'abord un privilège. Et ce livre est intéressant pour ça, parce que c'est un point de vue vraiment personnel. Et que dans sa conclusion, la journaliste des Inrocks a montré qu'elle s'était prise à son propre piège avec le sujet même de son livre. En gros, elle dit « Qui croit-on être pour juger le moche ou même l'aimer ?» Ce qui est rafraîchissant, c'est qu'elle nous épargne rien de ses découvertes introspectives dans la conclusion de son livre. Elle dit « J'ai dû rapidement me résoudre à l'évidence. Je parlais du point de vue d'une personne privilégiée parisienne blanche et intégrée au système de la mode au point de m'être sentie naturellement inconsciemment même légitime à décréter la disgrâce d'objets et de tendances de culture entière. » Et ça, c'est quand même un peu rafraîchissant, quelqu'un qui se remet en question comme ça. Toi, c'est quoi ton avis personnel sur ce bouquin, Clem?
Oui, alors moi je pense que ça suscite un certain nombre de remarques. Bah déjà dans ce podcast et dans le féminisme en général, je pense qu'on parle davantage de ce qui est bien ou de ce qui est bon plutôt que de ce qui est beau. Donc ça nous change. Je pense que ces questions-là, elles sont quand même en partie lié à l'éducation et à la manière dont on s'en émancipe en grandissant. On peut prendre l'exemple de toute la musique dite jeune, qui depuis toujours, me semble-t-il, est faite précisément pour être trouvée nulle et moche par les parents. C'est d'ailleurs le principe, hein, c'est le fond de commerce de la musique pour jeunes. C'était le cas des Beatles à l'époque, de Elvis aussi, qui était vraiment considéré comme horrible par des gens plus âgés. Aujourd'hui, ça peut être le cas de PNL ou d'autres choses.
De Jul,
voilà. Moi, je me suis trouvée confrontée à l'altérité et à l'exotique du moche quand j'ai habité aux États-Unis, puisque c'est un environnement qui est très commercial et que le rapport aux marques et aux logos et au capitalisme en général n'est pas le même qu'en Europe et qu'en France. Il y a vraiment une esthétique très particulière qui est peut-être liée aux inégalités économiques, je ne sais pas, mais entre d'un côté les motels, les stations-service, les HLM délabrés et de l'autre des super riches qui vivent dans un univers très clinquant. Et par ailleurs, en lisant le livre, je me suis dit que j'avais l'impression qu'on était un peu cernés de toutes parts. C'est-à-dire que le moche, le beau et tutti quanti, de toute façon, sont réappropriés et régurgités. Et je trouve ça un peu fatigant que, quoi qu'il advienne, ça se soit tout de suite cool, en fait. C'est pas un concours, je trouve. Tout ça se mord un peu la queue, finalement. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, hein, dans sa conclusion. On sait plus trop où on en est. Mais, néanmoins, le terme est quand même, je pense, une porte d'entrée pour examiner notamment le cycle de plus en plus rapide de la mode. Donc, d'un côté, de la fast fashion, à l'autre côté, les friperies, et à tous ces habits qui partent en Afrique pour être recyclés et sont parfois repêchés là-bas, par exemple, par un magasin à Paris qui s'appelle Marché Noir, et qui reviennent ensuite à Paris. Donc, c'est assez fascinant. Voilà. Et toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ce livre ?
Bah, fascinant, c'est le mot. Perso, j'ai toujours été fascinée par la distinction entre le beau et le moche, une distinction hyper mouvante. J'ai grandi dans la campagne et je sais que quand je vais là-bas voir mes parents, par exemple, et que je suis vêtue en guérissol ou en robe à fleurs, ou de jogging et basket, les regards en disent non. Je suis habillée en vieille, je suis habillée en vieux, et c'est archi moche, quoi. Et à l'inverse, mon regard là-bas reste accroché sur les manteaux des iguales, les chemises à rayures satinées Célio, les balayages trois couleurs, alors que j'ai grandi dans ce bain esthétique et que je l'aime profondément, mais j'ai appris à le voir moche. Bref, notre opinion esthétique, c'est un peu un contrat social. J'ai trouvé intéressant d'en lire beaucoup sur ce sentiment. Je terminerai peut-être avec une anecdote que m'avait raconté un collègue, Benjamin Seize, qui travaillait sur les migrants embarquant dans les trains à la frontière italienne. Il m'avait raconté le cas de l'un d'eux qui avait trouvé un costume trois pièces bien trop grand pour la veste, trop petit pour le pantalon. Il avait mis un chapeau et un attaché-caisse vide. Pour passer à la frontière, en fait, il avait réfléchi au code du beau français. Il s'était dit, c'est comme ça qu'il faut que je m'habille pour me fondre dans la masse. Évidemment, ça n'a pas été le cas. En jean et en t-shirt, il aurait peut-être eu plus de chance. Les codes du beau sont pas si anodins que ça. Et c'est important de s'en souvenir.
Oui, bah je pense que c'est une très bonne conclusion à cet épisode. On vous invite à lire le livre d'Alice Pfeiffer ou à nous envoyer des messages pour nous parler du moche. Vous nous trouvez sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous trouverez aussi toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Et vous pouvez nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Et justement, puisque l'été est arrivé, vous pourrez nous écouter sous forme d'épisodes courts. On vous parlera de livres, d'expositions, de documentaires ou de séries. Et la semaine prochaine, on commence cette série d'été avec le nouveau film d'Amandine Gay. Salut !
Bye bye !
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Anne-Laure Pinault,
prise de son Adrien Beccaria au studio L'Arrière Boutique, mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.